Voilà, en cette quatrième année de catéchisme pour adultes, je vais revenir cette année aux fondamentaux pour repartir de plus belle, mais si vous voulez, pour des personnes qui seraient nouvelles, nous avons pendant ces trois années vu les premières leçons du catéchisme, l'existence de Dieu, l'histoire sainte. Ensuite, nous avons vu les vérités principales et en deuxième année, nous avons lu l'Évangile en entier. Et donc, merci bien. Et en troisième année, nous avons pris des thèmes, la confession, la communion, l'Eucharistie. Et donc, cette année, nous reprenons en quelque sorte un cycle. Mais ça sera aussi, comment dire, un peu plus biblique. Donc, pour permettre, en quelque sorte, de suivre de manière un peu continue la Bible, mais une Bible pour enfants, bien sûr. Hein, c'est pas la, comment dire, la Bible des enfants aux éditions Teki est une excellente Bible parce que. Lorsqu'on commence à lire la Bible, on se noie au bout de quelques temps et on ne la lit plus. Donc moi je lis toujours une Bible pour enfants, pour les adultes, parce que du coup les adultes ont une connaissance de la Bible qu'ils n'auront jamais. S'ils la lisaient en prenant le texte lui-même, en rentrant dedans et en s'étouffant dedans. D'autant plus que la Bible, suivant la tradition catholique, doit être toujours lue avec un commentaire. Parce que il y a des passages qui sont tellement forts qu'on ne peut pas lire la Bible sans un commentaire. Sinon, vous finirez par croire tout et n'importe quoi, surtout par rapport à la violence, par rapport à l'exigence de la vérité aussi. Et c'est la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours été très prudente dans la communication de la Bible aux fidèles. On peut lui reprocher, mais si vous voulez, depuis que la Bible est livrée à tout le monde, eh bien, les sectes se sont multipliées, les interprétations se sont multipliées, et nous voyons avec le temps que ce n'a pas été heureux. Alors, ce soir, nous allons donc commencer d'une manière extrêmement simple pour ce début d'année, par l'existence de Dieu, mais en allant plus vite que le catéchisme plus fondamental que j'avais fait, parce que maintenant qu'il est enregistré, c'est, si vous voulez, on peut s'y référer. Et donc, nous voir l'existence de Dieu, la vie trinitaire et la prière en une seule séance, en une seule instruction, c'est un peu ambitieux, mais c'est parce que... il faut d'abord, comme un certain nombre d'entre vous sont déjà croyants, voyez-vous, c'est aussi pour les intéressés, et pour ceux qui veulent découvrir d'une manière un peu nouvelle les choses, eh bien, ça sera quand même aussi suffisamment complet. Ce qui fait que la deuxième séance dans 15 jours sera sur la création des anges. Et les anges, l'histoire des anges. Et l'action des anges dans le temps, puisque nous avons un monsieur qui viendra, moi j'interviendrai, il interviendra et il présentera un livre qu'il a fait sur les anges. Alors, ce soir, par contre, donc, on va essayer de prendre le pari, n'est-ce pas, de comprendre, de nous approcher de la prière. Alors, qu'est-ce que prier ? C'est parler à Dieu. Et pour parler à Dieu, il faudrait savoir si on peut lui parler. Qui est Dieu ? Et est-ce qu'on peut lui parler ? Est-ce qu'il nous a aidés ? Est-ce qu'il nous a fait... Est-ce qu'il est rentré en communication avec nous ? À travers les siècles ? Donc mon propos, ce ne sera pas la création véritablement, mais la relation à Dieu. Alors, tout d'abord, une manière très simple, hein. Dieu. Dieu, c'est le jour lumineux dans étymologie. Ça a donné le jour en latin, dies. Dieu, c'est la lumière, Dieu, c'est l'être. Lorsque Moïse, qui était un saint homme, demande son nom propre à Dieu, mais ça, nous le verrons un peu dans l'histoire sainte, mais là, je fais des morceaux choisis pour ce soir exprès. Dieu répond, tu diras au peuple que je suis t'envoie. Or, on a du mal à retrouver une définition aussi limpide et aussi claire de Dieu que Yahvé. C'est je suis en hébreu. Les linguistes, juifs, ont mis des voyelles étonnantes à Yahvé pour que le lecteur dans la synagogue s'arrête devant ce mot sacré. Jéhovah, ce sont des voyelles masorétiques, c'est-à-dire des copistes juifs, qui sont absurdes. C'est comme si je vous disais, au lieu de chaussures, je vous disais Chissaro. Et il enfila ses Chissaro. Vous dites, vous arrêtez votre lecture, vous ne comprenez pas. Eh bien, lorsqu'à la synagogue, on tombe sur Yahvé, au lieu de prononcer Yahvé, avec les syllabes Jéhovah, ce qui ne veut rien dire en hébreu. Du coup, le lecteur dit le Seigneur. Et donc, ça, c'est un petit coup de patte sur les témoins de Jéhovah, parce que ils ont voulu prendre une certaine traduction, ils ont phonétisé et mis des voyelles sans, pour un peu se séparer des autres, et c'est une des conséquences. Donc, tout ça pour vous dire que Yahvé, c'est le « je suis ». Et le Christ lui-même, lorsqu'il affirme sa divinité, il dit « je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Or, nous sommes en 2018, Abraham a vécu dans les environs de 1800-1700 ans avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas mon propos ce soir de faire de l'histoire sainte, c'est d'essayer de faire une méditation sur Dieu et sur notre prière. Mais donc, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous dire que Dieu est l'être. C'est lui qui existe. Et comme je l'avais dit il y a 3 ans, dans le genre de l'être, moi je suis de cet exposé catéchétique que certains trouvent simpliste, mais j'aime bien être plus simpliste, être plus simple, c'est que dans le genre de l'être, de ce qui existe, Dieu, lui, a la particularité d'être éternel, d'avoir toujours existé. Il est l'être par excellence. Il n'y a pas eu un temps où c'était le chaos et le vide. Dieu a existé avant la création de la matière. Il a existé et il a formé la matière. Il a créé la matière qui était informe, qui était chaotique. Mais Dieu a existé avant. Et Dieu est l'être éternel. Il est pur esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas composé de matière. Et c'est une des raisons, si on s'approche peut-être même de l'hérésie, à simplifier la philosophie et la théologie ainsi, mais bon, j'ose, hein, on est là, on est tranquille, on est entre nous. Et donc, c'est bien parce qu'il n'a pas de matière qu'il est immortel. Parce que la matière, c'est foncièrement divisible. Ça s'use, ça se casse, ça se divise, les atomes explosent, les atomes se scindent. Tandis que Dieu, lui, n'étant pas composé de matière, il est pur esprit, mais pour nous, on ne peut pas imaginer de l'impalpable. Oui. Et c'est impalpable, cet esprit, il est éternel. Et nous verrons justement dans 15 jours qu'il a voulu créer des êtres auparavant, avant la matière, qui sont comme lui, immatériels dans leur existence, pas composés de matière, les anges. Dieu est un pur esprit éternel, incréé, et les anges, ce sont des esprits créés dans le temps. Et donc, la particularité d'un esprit, c'est de saisir, de comprendre et d'aimer. Lucifer aime beaucoup, mais il n'aime que lui, par contre, sa particularité. Il s'aime, il veut être aimé, mais il n'aime personne. Or, un bon esprit, il aime. Il a une pure intelligence et il a une pure volonté. Dieu est un être qui est fait pour l'être, et tout ce qui existe est bon. Le mal, c'est une privation de bien. Et pour nous, c'est un peu difficile. Le mal, c'est rien. Et ouais, quand quelqu'un m'insulte et me gifle, c'est quand même quelque chose. Non, pas particulièrement, parce que vous pouvez gifler quelqu'un pour le réveiller. C'est pas un mal, un coup de poing. Ah, mais il m'a donné un coup de couteau. Oui, mais le chirurgien, lui, il vous donne un coup de couteau pour ouvrir, pour extraire une tumeur. Enfin, quand même, c'est une privation, justement, de l'unité de la peau, quand même, une coupure. Mais, si vous voulez, le bien, c'est l'être qui perdure aussi. Or, la matière, elle n'est pas faite pour perdurer. Elle est faite pour s'user, elle est faite pour se consumer. Quand Dieu crée des volumes impressionnants d'hydrogène, ils sont faits pour exploser, ils sont faits pour faire des étoiles. Et toute la matière qu'ils forment, et qui forme le cœur de combustion de cette étoile, ça va créer des atomes de fer, de cuivre, d'or, d'uranium. Enfin, il y a le cœur d'une étoile est très impressionnant, très lourd, très dense. Et quand une étoile explose, eh bien, le noyau de cette étoile va refroidir et va faire une planète. Mais c'est de la matière, c'est très beau. Il y a des personnes qui sont amoureux de l'astronomie. Mais en soi, c'est quelque chose qui est caduque. C'est les feuilles caduques. Vous avez des arbres qui sont très beaux lorsqu'ils sont dans leur pleine santé, lorsqu'ils sont tout verts, n'est-ce pas? Mais les arbres à feuilles caduques, ce sont les feuilles qui tombent. C'est beau un moment, c'est la rose, elle est belle, mais ensuite elle est fanée, flétrie, étrange. Dieu, lui, n'étant pas composé de matière, est immortel. Il n'a pas été créé, il n'a pas reçu l'être. Il est l'être lui-même. Il est éternel. Et il a une vie intime. Et pour ne pas trop parler de la Trinité maintenant, la vie intime d'un esprit, c'est de comprendre et d'aimer. D'où le titre de ce soir, qui est « Connaître Dieu et l'aimer ». Parce que cette capacité que nous avons de connaître, elle est due à notre esprit. Les anges l'ont, nous l'avons. Les animaux, eux, sont dans une connaissance instinctive. Alors s'il y en a parmi vous des grands amoureux des animaux, on pourra débattre, mais plus tard. Les animaux ont une connaissance instinctive qui est très complète et très forte. Vous avez certains... Moi, cet été, j'ai regardé une araignée faire sa toile. Une araignée qui faisait 4 mm, entre 2 et 4 mm. C'est toute petite araignée. Elle était dans une ferronnerie et elle a fait sa toile. Donc, elle a fait des axes Ensuite, après avoir fait 4-6 axes, elle est partie du milieu et puis elle a commencé à monter d'un centimètre et elle a fait un nœud, n'est-ce pas? Elle a fait bien coller et puis elle est allée à l'autre axe et elle faisait comme ça, une spirale, mais de manière extrêmement consciencieuse. Alors je lui ai demandé, où avez-vous appris ça, tout ça. Alors si ça se trouve, elle me comprend. Et elle m'a répondu, mais avec ses moyens, avec ses mandibules, c'était peut-être du code, mais j'ai enfin du morse. Vous voyez, mais j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, ce que je comprenais, c'est que elle faisait une œuvre très très intelligente, mais qui n'était pas d'elle. Vous voyez? Pour reprendre toujours le même exemple, vous avez une hirondelle naît dans son nid, elle casse la coquille, elle sort, elle est nourrie. Elle part, le nid, bon, elle l'a regardé, mais bon, elles sont toutes très douées, parce que voir simplement un nid en torchis à l'œil, et plus tard en refaire un identique, sans même de cours d'apprentissage par ses parents, c'est extraordinaire. Hein. Vous voyez, adulte, l'hirondelle, elle est là, elle prend une boulette de boue, elle fait plein de petites boulettes, et ça fait un nid. Quand il sèche, ça adhère par le bas. C'est impressionnant. Des nids d'hirondelles, c'est très curieux. Et donc, pour en terminer vite, la pensée et l'instinct chez l'animal, c'est un emprunt de la pensée et de la puissance divine. Mais il n'y a pas de conscience. Ils n'ont pas de science connue. Ils l'exercent, leur science, ils en ont une. Vous voyez? Mais on s'est aperçu que non seulement les oiseaux, mais même les chiens ont un GPS. Ils ont une très grande sensibilité au magnétisme de la Terre. Les chats. Et puis alors l'instinct des chats, leur finesse, comment dire, la manière dont ils apprivoisent leur maître ou leur maîtresse, la manière dont ils testent, parce qu'ils veulent être bien, bien manger, au chaud, ressentir du plaisir, et ça y est leur vie. Seulement quand ils ont votre odeur, votre lieu, votre voix, ce n'est qu'à vous qu'ils vont demander ça. Et ça crée un lien d'affection qui est indéniable. Eh bien, Dieu, lui, il est l'origine et la source de tous ces actes intelligents à travers le monde. Et vous avez des actes qui sont mécaniques chez les fleurs. Lorsque dans un documentaire, on vous présente les arbres qui s'envoient des messages, c'est exagéré. Vous voyez, vous avez un platane qui dit, oh là, je suis attaqué par un parasite. Et qui envoie des éléments chimiques de son attaque à un autre platane qui sait, ou c'est plutôt des sapins, qui voit bien que son voisin est malade et qui réagit en conséquence. Mais c'est extraordinaire ce qu'on découvre actuellement de tous ces éléments qui sont dans les airs. Les phéromones pour attraper certains insectes. Au lieu d'utiliser des produits chimiques, on utilise les sécrétions, comment dire, de reproduction de ces insectes, qui pensent aller vers des femelles et qui tombent dans des pièges. Et inversement. Eh bien, quand vous admirez la création, il faut en effet remonter à cette intelligence et cette fantaisie divine. Ça, je le dis souvent, ceux qui m'ont déjà entendu, mais c'est très très important. Il faut que vous considériez Dieu comme un artiste extraordinaire, avec une fantaisie extraordinaire. Voyez-vous, quand on est contaminé par l'évolutionnisme absolu, et qu'on considère qu'il n'y a aucune intelligence, et que tout se fait par des atomes crochus, Et je reprends toujours le même exemple de Luc Besson, qui a une obsession panthéiste dans ses films, surtout dans le film Lucie, où la démonstration de ce film, c'est de dire que nous sommes de purs messages électriques de polarisation d'atomes et de cellules. Et que la vie vient uniquement de ces atomes qui s'entrechoquent et qui forment l'un une bactérie, l'autre un poisson, l'autre un oiseau, l'autre un singe, l'autre un homme. Mais c'est du pur hasard. Et certains même vont jusqu'à considérer que Dieu existe, que Dieu a pu donner la pichenette créatrice, mais qu'il ne continue pas la création et qu'il y a à nouveau du hasard. Et c'est une théorie très dangereuse, qu'il y a du hasard après la création intelligente. Mais c'est une théorie très dangereuse qui doit être rectifiée à la Saint-Augustin. Saint-Augustin dit qu'il y a des puissances séminales dans la création, comme des graines. Vous voyez? Mais Dieu conduit cette création, conduit cette transformation des branchies aux poumons, si on est passé par les poissons pour arriver aux mammifères. Si Dieu n'a pas fait un acte de puissance différent entre le poisson et le mammifère. Ça, voyez-vous, comme le bon Dieu ne nous a pas donné un cours parfait en cette matière, c'est quelques lignes, hein, la Genèse, hein, sur la création. Donc les scientifiques croyants et athées, ou très évolutionnistes, peuvent se battre encore pendant des années et des années. Alors, qu'est-ce que va vous dire l'Église? Elle va oser vous dire que Dieu a créé chaque espèce avec toute son attention et toute son intelligence, et qu'il n'y a pas de hasard dans les yeux des araignées. Dans le fait qu'elles aient 8 pattes et qu'elles produisent de la soie par leur abdomen. Voyez. Voilà. Le jour où les coucous feront de la soie, peut-être qu'ils n'auront plus à prendre les nids des autres. Ils feront des grandes toiles de coucous. Mais vous voyez, il y a de l'intelligence derrière tout le créé que nous voyons. Et c'est la raison pour laquelle la religion de base, c'est le Créateur. La prière de base, c'est reconnaître la création. Et parce que c'est une prière essentielle, c'est la première à avoir été attaquée par les impies et ceux qui voulaient vous faire perdre la foi, de purs athées ou des satanistes, hein, qui consciemment veulent détourner de Dieu. S'ils sont satanistes, s'ils croient en l'existence des anges, et s'ils croient en la chute d'un chérubin qui était Lucifer, s'ils y croient vraiment, et s'ils ont eu même s'ils ont fait du spiritisme et qu'ils ont eu des manifestations étonnantes, par exemple, vous voyez, le verre va venir jusqu'à ma main. Vous voyez? C'est normalement c'est un tour de magie. Voilà. Mais si le ver était parti dans les airs pour arriver jusqu'à moi, c'est pas naturel, hein. C'est pas naturel. Ou il y a un truc, ou c'est surnaturel. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de Saint-Joseph Copertino. Le bon Dieu a multiplié son humour vis-à-vis de son serviteur. C'est quelqu'un qui avait une intelligence très très relative et assez limitée, mais qui, en fait, son intelligence était très contemplative, mais ça ne l'intéressait pas de développer, développer, développer. Il a eu beaucoup de mal pour les études, et tous les étudiants, pour terminer leur mémoire de, comment dire, prix Saint-Joseph de Copertino, et donc, ou pour passer leurs examens. Parce que lui, il est passé par toutes les étapes du sacerdoce en passant seulement 2 ou 3 examens et uniquement sur le même thème, puisqu'à chaque fois, le bon Dieu faisait en sorte que le professeur l'interroge sur la même question. Et il est devenu prêtre parce que lors de l'examen, tous ceux qui étaient avant lui répondaient tellement bien que l'évêque a dit: Oh, mais toute la classe doit savoir ça, Donc, vous êtes tous aptes au sacerdoce. Et lui était derrière. Et la particularité de Saint Joseph Copertino, c'est qu'il avait des lévitations. Des lévitations, Saint Jean Bosco en avait quand il célébrait la messe, pas toujours, mais il en avait. Et le bon Dieu, lui, l'a laissé un peu tranquille. Donc, il avait des lévitations, surtout en messe privée. Je ne crois pas qu'on ait de lévitation de Saint Jean Bosco en messe publique. Donc, son visage devenait lumineux et il partait à 20 cm au-dessus, en l'air. Mais Saint Joseph de Compertino, lui, c'était devant tout le monde qui, lorsqu'il contemplait Dieu, son âme rentrait dans un tel état, son esprit, son intelligence saisissait le réel, l'être, la relation avec Dieu, d'une manière tellement simple que son âme s'affranchissait des lois du corps. Et que le bon Dieu en rajoutait un peu quand même, puisque son corps montait, montait, montait. Mais il montait de plusieurs mètres. Et il montait de manière amusante. Il était avec ses confrères franciscains dans les années 1630, 1640, et il montait. À un moment donné, il est monté, il y avait un arbre, il s'est retrouvé au niveau d'une branche. Près de la branche, il était comme léger, n'est-ce pas? Mais son extase s'est arrêtée. Donc il s'est posé sur l'arbre. Il ne pouvait plus redescendre. Et bien là, vous allez me dire, ça s'appelle la légende dorée, c'est les miracles qu'ont fait des saints et qu'on a interpellés, transformés. Donc les moines ont mis une échelle et ont descendu Saint-Joseph. Mais une autre fois, il célébrait la messe. Et il y avait le duc de Brunswick qui était là, qui était un des familles de princières du Saint-Empire romain germanique. Et il a une extase. Lui était protestant. Hein, c'était dans les années 1649, si je ne me trompe pas, 48. Et il assistait à cette messe. Allez savoir comment, pourquoi il était là. Et donc, je l'ai dit à la messe de 19h, donc lui était un homme de guerre, un homme de pouvoir. Il voit un moine en habits sacerdotaux, monter à l'autel, avoir une lévitation à l'autel. Et lui, en homme rationnel, il a tiré son épée. Et il a fait comme dans les cirques, il a passé l'épée en dessous, au-dessus, sur les côtés, devant, derrière. Je suppose qu'il n'y avait pas eu la consécration encore. Oui, mais. Et il a constaté le miracle lui-même. Oui. Et ça a fait son chemin dans son âme, et il est devenu catholique 2 ans plus tard. Oui. Mais, donc, les religions partent du réel et de la création. Comment on arrache la religion au cœur des enfants? On leur dit que tout vient du hasard. Et que le ciel qu'ils voient, les nuages, les herbes, les poissons, les animaux, tout ça c'est le hasard. Et donc toujours la même histoire, c'est cette petite fille qui demandait à l'institutrice « Pourquoi il pleut ?» Elle lui dit « Il y a des masses d'eau chaude, froide, d'évaporation considérable. » Qui font les typhons, qui font les ouragans en ce moment. C'est l'eau froide et l'eau chaude, les masses d'air froid et des masses d'air chaud qui rentrent, et avec l'humidité qu'il y a dedans, ça c'est des concrétions incroyables, et les masses d'air qui montent et qui descendent forment des appels d'air épouvantables, qui font des vents à 250 km/h. Et elle dit, et ça retombe sur la terre, et il y a des plantes qui poussent, on boit de l'eau. Et la fille insiste, elle dit, je ne vous ai pas demandé comment il pleut, mais pourquoi il pleut. Pourquoi il y a de la pluie? Pourquoi il y a des plantes? Et en discutant avec cette étudiante en 6e année de médecine, je lui dis, mais vous n'étudiez jamais la cause finale des organes. C'est pas vrai! Bon, éventuellement, vous allez dire que pour le sucre, c'est le quel est l'organe principal qui est atteint par le diabète? C'est le pancréas. Donc, qui produit de l'insuline? Voilà. Et donc, si on dit la cause finale du pancréas, c'est de produire de l'insuline, de réguler le taux de sucre dans le sang, on dit c'est la cause finale de cet organe. Oui, mais comment se fait-il qu'il soit là et qu'il fasse ça sur l'ensemble du corps? Pourquoi on a un cœur? Eh bien, c'est pour que le sang soit réparti. Je crois qu'il y a 16 valves qui s'ouvrent et qui se ferment à chaque battement au cœur. Non, le pourquoi, c'est pourquoi il a été créé, pourquoi on a été créé, pourquoi il y a des corps, pourquoi il y a des planètes, pourquoi il y a des étoiles, pourquoi il y a de la poussière. La poussière qui forme comment dire, le gros, n'est-ce pas, de la terre. Il n'y a pas que de la bonne terre fertile et arable. Il y a beaucoup de poussière qui forme des tonnes, des tonnes, des tonnes et qui nous permettent de ne pas être sur le magma terrestre. En ce moment, je crois qu'il y a le piton de la Fournaise qui est en éruption. Et c'est extraordinaire, à cet endroit-là, vous avez le magma qui vient de ce noyau de la Terre qui est dans une chaleur extraordinaire. Et c'est du métal en fusion, c'est des minéraux en fusion. C'est absolument extraordinaire. Quand vous voyez le magma terrestre partir et faire des octogones, ce qu'on appelle les orgues. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des orgues de terre d'éruption. Pourquoi? Et donc, lorsque les Aztèques et les Incas adorent le soleil, et qu'ils se disent que s'ils sont malades et s'ils meurent, c'est lié à leur vie naturelle, c'est lié au fait de manger, de boire, d'avoir la lumière du soleil, de cultiver. Et cet être qui les fait vivre, il peut être aussi sévère qu'eux. Parce que voyez-vous, un des débuts de la prière, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on applique à Dieu les sentiments de l'homme.